Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Les insanguins de la radio.
Radio Rosanna-Pipari.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
L'un des agents du candidat Daoud Zaï est venu me voir dans mon magasin. Il recherchait des endroits où il y a des pauvres pour acheter leur teskira. Il m'a dit qu'il donnerait en échange pour chacun un sac de farine, plus $50.
Les taskiras, ce sont les cartes d'identité afghanes qu'on achète aux pauvres pour la fraude électorale. La fraude à un niveau absolument hallucinant. En Afghanistan, c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde avec des témoignages qui vous laisseront pantois. Sous les radars, et Florence Paracuelos avec les larmes d'une journaliste d'MSNBC en parlant des enfants séparés de leurs parents à la frontière mexicaine. Le blockchain contre le trafic d'enfants, ça se passe en Moldavie. Et puis un palais à La Paz qui fait beaucoup parler de lui. 18h50, le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier, une histoire complètement barrée de punk et d'extraterrestres. 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, cachez-moi ces migrants que je ne saurais voir, ou comment les pays tous essayent de faire en sorte qu'on éloigne les migrants loin de chez nous. Mais tout de suite, Angela Merkel, Emmanuel Macron, l'Europe, avant le sommet de la semaine prochaine. C'est maintenant, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
En Allemagne, donc, au lendemain de la rencontre Angela Merkel et Emmanuel Macron, sur fond de crise migratoire, de réforme de la zone euro aussi, c'est l'ambassadeur d'Allemagne à Paris qui est notre invité ce soir. Bonjour Nicolas Meyer-Landru.
Bonjour.
La réunion hier entre Angela Merkel et Emmanuel Macron a permis quelques avancées sur lesquelles on reviendra. Il y en a une partie qui sont à remettre sur le tapis au Conseil européen des 27 et 28 juin prochain, donc c'est la semaine dernière. Quand même, commençons par la bouteille à moitié pleine. Finalement, Angela Merkel achète l'idée d'un budget européen. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé d'avis et que finalement, elle dit d'accord à cette idée sur laquelle elle n'était pas chaude et qui était une idée de Macron?
Il y a eu beaucoup d'échanges. Et il faut voir, ce qui a été décidé hier recouvre plusieurs sujets. La zone euro, le budget de la zone euro en est une, qui est important, mais qui n'est pas la seule. Donc il y a aussi la politique extérieure, il y a la migration, il y a
Oui, et on y viendra. Mais là-dessus, mais sur ce budget.
Pour le budget, ce qui est important, et on l'avait déjà dit dans l'accord de coalition, c'est de se rapprocher sur l'utilisation du budget. Mmh. Donc là, on dit que c'est un budget donc pour la zone euro, mais pour les investissements, pour la compétitivité, pour la convergence. Donc il y a des objectifs qui ont été définis pour ce budget que nous partageons.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sera pas un bas de laine pour les autres quand ils en auront besoin? Il va servir à quoi cet argent? Parce que pour l'instant, ça reste quand même assez flou sur la somme, sur comment on l'utilise, sur qui l'utilise. Donc ça sert à quoi?
On s'est mis d'accord hier sur plusieurs instruments financiers. Le budget en est une. Et le budget sert effectivement à permettre aux pays d'avancer, d'investir dans l'avenir. En plus, on a dit qu'on allait étudier un mécanisme, un fonds de réassurance pour les assurances chômage. Ça stabilise dans les crises.
Mais ça veut dire quoi? Pardonnez-moi. Par exemple, imaginez demain une situation similaire à celle de la Grèce. Est-ce que ça veut dire que c'est ce budget-là qui permet à la Grèce de payer ses assurances chômage, par exemple? Exactement, c'est quoi l'utilité, en fait? L'usage, ça va être quoi?
Si vous avez un problème économique, que ce soit la Grèce ou un autre,
ou n'importe qui d'autre,
vous avez souvent un montée de chômage. Dans ce cas-là, souvent les États sont obligés, avec leur budget, de réalimenter leur assurance chômage sur leurs coûts.
Donc là, c'est l'Europe qui palie.
Ça sera financé par un fonds qui sera mis en place par les assurances chômage nationales, sur lesquelles donc l'assurance peut prendre un crédit. Donc le budget de l'État sera soulagé de cette charge dans une crise.
Est-ce que on sait, pour l'instant, ça a l'air assez flou, le montant, le fonctionnement, le financement, qui met la main à la pâte et dans quelle proportion? Est-ce que là-dessus, on a l'impression que pour l'instant, on est dans l'idée générale, pas tellement sur les détails, en fait?
Bon, premièrement, et c'est comme ça que le président Macron l'a dit hier aussi, il y a deux jours, on n'avait pas de budget de la zone euro. Mmh. Aujourd'hui, on a une perspective d'en avoir une.
Certes, on a une perspective d'en avoir une, comme vous dites. On ne l'a pas, mais on a la perspective.
Ben oui, parce qu'il faut se mettre d'accord à 19 aussi.
Se mettre d'accord avec les autres. Est-ce qu'on est capable de faire suivre les 17 autres, justement? Est-ce qu'on a toujours, est-ce que ce couple franco-allemand qu'on représente crée toujours cette impulsion-là auprès des 17 autres?
Je pense, parce que les dernières semaines ont aussi été utiles pour parler à d'autres. On ne parle pas dans une vase close entre Français et Allemands. Et les autres verront aussi qu'on propose en fait différents instruments qui ont des finalités différentes, qui doivent servir à des situations différentes. Et je pense qu'on va pouvoir, les convaincre. Mais le travail de la mise en place détaillée est aussi quelque chose qu'il est utile de faire avec les autres, parce que ça doit aussi être leur bébé.
Et ça commence maintenant. Quel droit de regard du Parlement allemand, mais aussi du nôtre et de celui des autres d'ailleurs? En gros, quand on va débloquer de l'argent, qui va décider de ce déblocage? Et est-ce qu'il faudra à chaque fois approbation des parlements ou pas?
Ça dépend du source de financement. Si vous avez une source de financement au niveau européen, c'est évidemment le niveau européen qui a la responsabilité de débloquer des fonds. Si vous avez un financement qui vient par des sources nationales, vous avez à traiter avec ceux qui sont les responsables des ressources nationales, c'est les parlements nationaux. Si vous avez une ressource propre qui est directement financée, vous avez à traiter avec ni l'un ni l'autre.
Mais on mettra, Monsieur Meyer-Landru, chacun va mettre au pot, en fait, et chacun en fonction de ses possibilités, chacun en fonction de son argent, c'est ça qui créera un budget. C'est comme ça que je comprends les choses, chaque pays de la zone euro. Lorsqu'il faudra débourser cet argent, qui va décider, puisqu'apparemment il n'y a pas de ministre du budget, qui va décider, tiens, à partir de maintenant, nous donnons tant de millions à la Grèce, au Portugal, à l'Espagne, à la Hongrie, à la Pologne. Qui décide de ça? Est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que chaque Parlement, encore une fois, va devoir dire...
Je pense que, permettez-moi de dire, ça va être un peu plus compliqué. On a dit que les orientations, les grandes orientations, ça a décidé par l'ensemble des États de la zone euro, évidemment, parce que c'est leur fonds. Et après, nous souhaitons que la mise en œuvre se fasse par la Commission, parce que la Commission est aussi chargée de la mise en œuvre du budget européen. Il faut aussi qu'il y ait une bonne coordination entre les différents budgets et moyens financiers pour que ça ait des effets qui se multiplient.
Alors, tout le monde a reconnu que ça pouvait être une avancée intéressante, ce processus qui se met en place. Est-ce qu'il y a eu un donnant-donnant, Nicolas Meyer-Landru? C'est-à-dire, en gros, Angela Merkel qui dit « Ok, je dis oui sur le budget, il faut m'aider sur les migrants ». C'est ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron, puisque sa phrase, c'est de dire que désormais, il insiste sur le fait que les demandeurs d'asile doivent le plus vite possible être repris dans les pays qui les a enregistrés, ce qui est exactement ce que veut Angela Merkel pour se sortir de sa situation difficile. Est-ce qu'il y a eu une espèce de donnant-donnant ou pas?
Non. Le sujet asile, migration, frontières extérieures est pour nous un sujet important dans la manière de faire avancer l'Union européenne depuis le début de ces débats. Emmanuel Macron, on en a parlé dans le discours de la Sorbonne, donc ce n'est pas du tout un sujet qui arrive complètement inopiné maintenant.
Ah non, c'est pas inopiné, mais entre-temps, la situation politique d'Angela Merkel, reconnaissez-le avec moi, est beaucoup plus compliquée.
La situation est compliquée, je ne sais pas si elle est beaucoup plus compliquée par rapport à quel moment vous le jugez, mais effectivement, le sujet est important en Allemagne, et la volonté du gouvernement allemand, c'est d'avoir une bonne coordination entre mesures européennes, accords bilatéraux, et mesures nationales, parce que uniquement dans la coordination, on peut réussir.
Alors, est-ce que ce qui est plus important sont les accords bilatéraux avec la Grèce, avec l'Italie? Est-ce qu'on peut réellement s'entendre de toute façon au-delà de ces accords bilatéraux? On sait bien ce qui se passera lorsqu'on demandera une solution solidaire, notamment en Hongrie, en Pologne et ailleurs. Donc, est-ce qu'en appuyant sur les accords bilatéraux, Angela Merkel s'en sort?
Il y a un cadre européen qu'on est en train de réformer sur un certain nombre de principes et de législations précises qui est en cours. C'est important. Mais pour un certain nombre de situations précises, aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement un besoin d'un travail bilatéral pour régler les choses qui se présentent actuellement.
Parce que Horst Seehofer, je ne vous apprends rien, dit il faut que les Dublinés, ce qu'on appelle les Dublinés, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés par un pays mais qui sont ensuite arrivés en Allemagne, retournent dans le pays qui les a fait entrer. Il donne même, Angela Merkel refuse d'appeler ça un ultimatum, mais c'est un peu ce que ça veut dire, une date butoir qui est celle du 1er juillet. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne au 1er juillet? Et dans les deux cas, en fait, j'imagine que l'Italie ne sera pas très contente de voir revenir, de toute façon, beaucoup de gens qui entre-temps sont partis. Donc qu'est-ce qui se passe en Allemagne le 1er juillet avec les migrants?
Le gouvernement a dit, la chancelière l'a dit publiquement, que effectivement les échéances européennes, là, à la fin du mois de juin, sont très importantes. Il y aura une première réunion au cours de ce week-end, il y aura le Conseil européen à la fin de la semaine prochaine, et le gouvernement évaluera les résultats obtenus à ce moment-là suite à ces réunions. Et après ça, on verra.
C'est le 27-28, cette fameuse réunion.
Exactement.
Donc, entre le 27-28 et le 1er juillet, il y a le 29 et le 30.
Il y a les résultats, on peut les évaluer. Et si on a besoin de 3 jours de plus pour les évaluer, on prendra 3 jours de plus.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'une répartition qui est le vœu de chacun, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est un vœu pieux, que ça ne marchera pas, la répartition? Regardez ce que la Hongrie a annoncé aujourd'hui. Il y aura des poursuites, y compris contre les ONG qui aident les migrants. Donc, l'idée d'une solution solidaire européenne, sincèrement, est-ce qu'elle est viable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer que ça va exister?
Mais la solution européenne, et ça aussi, et c'est important, les deux l'ont dit hier, est au-delà du jour au jour quelque chose qui doit se construire. Et elle comporte plusieurs éléments. Elle comporte un travail avec les pays d'origine, avec les pays de transit. Elle comporte un élément de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, où les deux appellent une police de frontières extérieures européenne. Ils appellent aussi une institution européenne pour juger de l'asile et pour, après ça aussi, opérer les reconduites. Et si l'ensemble de ces choses se mettent en place, peut-être la question de la répartition se posera aussi dans un autre cadre. Donc je pense qu'il faut faire avancer l'ensemble des différents dossiers qui constituent une politique d'asile, de migration, de frontières extérieures dans son ensemble.
Nicolas Meyer-Landru, on se souvient de 2015 et d'Angela Merkel, y compris comment elle était perçue à l'intérieur de son propre pays lorsqu'elle a été la seule à accueillir les migrants. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays pour que la situation soit aussi différente entre 2015 et aujourd'hui? On a un peu l'impression que le pays s'est retourné contre les migrants. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux années-là, deux années et demie? Pourquoi c'est différent?
Il faut déjà voir qu'aujourd'hui, dans les faits, la situation est très différente d'il y a 3 ans.
Vous voulez dire que ce n'est pas les mêmes qui arrivent?
C'est pas les mêmes, c'est pas le même nombre. Et c'est dans un contexte européen qui a aussi évolué. En 2015, il y a eu à peu près 1 million de personnes qui sont arrivées en Allemagne. Aujourd'hui, on parle pour les premiers 5 mois de cette année de moins de 90 000. Donc on voit bien qu'on est dans une situation différente. On avait en 2015 des situations humanitaires dramatiques en Hongrie à laquelle il fallait répondre. Et on avait essentiellement des réfugiés de guerre qui arrivaient. Aujourd'hui, la question de comment différencier entre réfugiés, demandeurs d'asile, politiques et migrants économiques est beaucoup plus compliquée.
Et c'est ça qui est intéressant, vous le disiez, 1 million en 2015 et des quais de gare remplis avec des gens qui accueillent les migrants avec des fleurs, 90 000 cette année et des cris d'orfraie, des difficultés terribles pour Angela Merkel. Donc c'est bien quand même que la perception a changé, qu'il s'est passé quelque chose dans ce pays, sur, y compris la vision que les gens pouvaient avoir des migrants pour qu'on en soit là aujourd'hui, non ?
Nous voyons encore aujourd'hui en Allemagne une grande hospitalité. On voit beaucoup de gens qui s'engagent dans l'intégration, qui s'engagent dans l'accueil. L'accueil massif aujourd'hui n'est pas le problème. Il y a un travail à faire sur l'intégration des personnes qui sont arrivées aussi, parce que de ce million, beaucoup sont encore, la plupart sont encore en Allemagne. Donc les sujets ont évolué, mais il y a encore aussi beaucoup de bonne volonté en Allemagne.
Mais absolument, vos adversaires parlent d'une perte de contrôle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a parfois perte de contrôle après les arrivées massives? Ou non, pas du tout. Il y a une vraie maîtrise des migrants qui sont arrivés en Allemagne.
La situation 2015 a mis l'Allemagne devant une situation inédite et qui a certainement conduit des différents acteurs au bout de leur capacité et parfois au-delà. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut aussi s'assurer et réfléchir comment on peut faire pour éviter que ce type de situation se répète. Donc c'est un autre débat.
Nicolas Meyer-Landru, ce sera la dernière question. Angela Merkel est affaiblie. Jusqu'à quel point pensez-vous qu'elle l'est, très sincèrement? Est-ce qu'il y a une probabilité pour que la coalition s'écroule autour de ces sujets ou pas?
Non, je ne vois pas du tout ça à ce stade. Il y a maintenant un travail qui est fait au niveau européen pour avancer autour de ce sujet. L'Allemagne a mis longtemps à mettre son gouvernement en place.
Donc vous ne voulez pas recommencer.
Donc je pense beaucoup en Allemagne et dans les partis politiques tient à ce que le gouvernement tient.
Si la CSU partait pour une raison ou une autre de cette coalition, il y a un plan B avant une nouvelle élection ou pas?
Il y a maintenant un travail de fond sur le sujet dont on a parlé. Et une grande perspective de garder le gouvernement en place.
perspective. Merci beaucoup, Nicolas Meyer-Landru. Vous êtes l'ambassadeur d'Allemagne en France et merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Suite d'Un jour dans le monde avec Sonia Ghezali en Afghanistan. Et vous croyez savoir à quoi ça ressemble la fraude électorale? Vous n'avez rien vu du tout. Le trafic de cartes d'identité, une histoire de fou à Kaboul, sous les radars, en Moldavie, aux États-Unis, en Bolivie avec Florence Paracuelos. Le cinéma en VO, c'est un film complètement perché qui parle de punk et d'extraterrestres. Et c'est avec Corinne Pellissier qui a plutôt aimé, vous verrez. Et puis le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Fouan.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Éloigné de ma vue, ces migrants, alors, on en parlait à l'instant.
Est-ce que vous entendez les enfants crier, disent les manifestants qui interpellent Donald Trump. C'est sûr que si on ne les entendait pas ou si on ne les voyait pas, ça serait beaucoup plus simple.
Allez, le tour de la planète continue. Voici Sly and the Family Stone, Family Affair sur France Inter.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, blood thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there. But you're
Sly and the Family Stone sur Inter, Family Affair. Florence Paracuelos est là.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Florence, ça tourne sur les réseaux sociaux, ça va rester. C'est l'une des images des dernières heures aux États-Unis, l'image du malaise profond suscité par la politique migratoire de Donald Trump qui sépare les enfants de leurs parents en situation irrégulière.
C'est une scène inédite sur le plateau d'un magazine d'information. C'était hier soir dans le Rachel Maddow Show. La journaliste tente de lire une dépêche d'agence qui vient de tomber.
The AP has just broken some new news.
C'est une information de l'Associated Press qui vient de tomber. C'est juste incroyable. L'administration Trump a envoyé des bébés et de très jeunes enfants. Elle craque, Madame Maddow. Elle essaie de reprendre le fil. Envoyé dans trois centres pour mineurs dans le sud du Texas. Des avocats et des soignants. Là, je crois qu'il va falloir que je passe le relais.
Sorry.
Je suis désolée.
That does press night. We'll see you again tomorrow.
Voilà, à demain. Et elle va effectivement passer le relais. Elle n'y arrive pas. Elle n'aura pas réussi à lire la fin de cette dépêche qu'elle a ensuite publiée sur son compte Twitter. On y apprend que des avocats et des soignants qui ont visité ces centres ont décrit des salles de jeu remplies de très jeunes enfants en crise. Des décennies après que la protection de l'enfance a mis fin aux orphelinats pour des raisons de traumatisme durable, l'administration crée de nouvelles institutions pour séparer les tout petits enfants d'Amérique centrale de leurs parents. Voilà ce qu'écrit l'agence AP et que Megan Maddow, journaliste capée, forte personnalité, n'a pas réussi à lire, des larmes dans les yeux. Elle s'en excuse sur Twitter, mais cette séquence restera à l'image du choc suscité par ces séparations d'enfants dans l'opinion et chez bon nombre de républicains. Certains commencent à s'inquiéter d'ailleurs des conséquences que ça pourrait avoir aux élections de mi-mandat en novembre. Et d'ailleurs, Donald Trump vient d'annoncer qu'il va signer bientôt, on n'en sait pas plus, un texte pour que ça n'arrive plus.
Voilà, il dit signer quelque chose, sign something, ce qui donne quand même une idée du flou artistique pour l'instant. Quand la blockchain est utilisée contre les trafics d'enfants.
La blockchain, on en a beaucoup parlé à propos du Bitcoin. Mmh. C'est ce système qui permet de sécuriser des données partagées sur des milliers d'ordinateurs, ce qui rend les monnaies virtuelles à l'abri de toute manipulation. Pour faire simple, on peut parler d'un registre numérique ultra sécurisé, ce qui peut servir dans bien d'autres domaines. Et c'est le pari qu'est en train de faire la Moldavie. Cet État, parmi les plus pauvres du continent européen, craint pour ses enfants loin de leurs parents, souvent partis travailler à l'ouest pour faire monter le niveau de vie des familles qui est excessivement bas là-bas. 40 000 enfants vivent sans leurs parents en Moldavie. Ils sont des proies faciles pour les trafiquants d'êtres humains, chers à travail forcé ou à prostitution. Et c'est pour contrer ce phénomène, pas officiellement chiffré, que le gouvernement moldave va lancer un projet pilote avec une société américaine pour enregistrer les identités des mineurs sur une blockchain. Ensuite, les enfants ou les ados qui traverseront les frontières devront scanner leurs yeux ou leurs empreintes digitales à comparer avec ce registre que personne ne pourra modifier. Ça, c'est important. Dans un pays où la corruption est un vrai problème, où on peut payer un douanier pour qu'il modifie un serveur, pour qu'il modifie une liste, se déclenchera ensuite une alerte téléphonique sur les tuteurs légaux de ces enfants qui devront confirmer qu'ils sont bien au courant que les enfants sont en train de sortir du pays. Voilà. Qui pourrait compliquer tout de même la vie des trafiquants.
Allez, direction La Paz, enfin Florence, en Bolivie, à la veille de l'inauguration d'un tout nouveau palais du gouvernement.
C'est une tour de 29 étages dans la vieille ville de La Paz. Son béton gris et ses miroirs dominent la capitale bolivienne. Son nom, la Casa del Pueblo, la maison du peuple.
Edificio con una arquitectura de características propias, construidas con líneas puras, sencillas, que no encuentran obstáculos y se proyectan en el
La flûte de Pan, des lignes divines,
à deux doigts del Condor Pasa,
qui relie la terre au ciel, Fabienne, qui relie le passé au futur. Le président Morales n'a pas lésiné sur la communication, sauf que sa Casa del Pueblo est surtout appelé le Palacio de Evo, jugé plutôt 29 étages, 7 ascenseurs, un héliport, une suite présidentielle avec jacuzzi de 1000 mètres carrés, des salons de massage et des salles de sport. On est loin du peuple, hein, en l'occurrence, et loin de la gauche radicale du président Morales. D'où la polémique qui secoue la Bolivie en ce moment, pays où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Et muchas gracias, Florence Paracuelos, et on se retrouve demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et nous prenons la direction de Kaboul. Ce soir, dans Un jour dans le monde, depuis samedi, les inscriptions des candidats aux élections législatives sont ouvertes. Et depuis plus d'un mois maintenant, les électeurs, eux, sont appelés à s'inscrire sur les listes électorales. Les 249 sièges de la Chambre basse de l'Assemblée nationale doivent être renouvelés. Un scrutin qui arrive avec 3 ans de retard sur le calendrier initial. Mais c'est pas tout. Bonsoir Sonia Ghezali.
Bonsoir Fabienne.
Sonia, ça s'annonce extrêmement compliqué chez vous. Le scrutin n'a même pas eu lieu que la fraude s'organise. Certains candidats ont décidé de faire appel à des marchands de Katkirar, la carte d'identité afghane, pour s'assurer un nombre de votes suffisant en leur faveur pour accéder au Parlement. Les Tazkirar, un trafic incroyable. Ça a l'air même presque simple. On écoute votre reportage, Sonia, avec des témoignages incroyables.
Mustapha, Ahmed, Wazir donnent rendez-vous dans une rue étroite d'un quartier populaire dans le nord de Kaboul, direction l'arrière-boutique d'un de leurs amis. Les confidences se font assis sur un tabouret en plastique, en jetant régulièrement un regard alentour pour vérifier que personne n'écoute. Wazir, un jeune homme de 23 ans, diplômé d'une faculté de droit, au chômage depuis un an, achète des Tazkira, des pièces d'identité afghanes, pour un candidat aux élections parlementaires.
Je collecte chaque jour des Tazkira, une trentaine par jour. L'agent du candidat pour lequel je travaille vient ensuite les récupérer. Chaque semaine, il me donne une somme d'argent, environ 100 000 afghans, 1 400 dollars. Je donne ainsi entre 20 et 25 dollars par Tazkira. Une fois que l'agent a rassemblé assez de Tazkira, il est fait enregistrer dans un bureau de vote. Le candidat doit avoir des complices au sein du bureau électoral pour que les agents de la commission électorale indépendante les inscrivent sur les listes. Les agents du candidat peuvent ainsi voter à la place des personnes qui ont donné leur taskira le jour du vote.
Pour trouver des personnes qui acceptent de vendre leurs pièces d'identité, Wazir n'a qu'une seule méthode.
J'ai commencé à demander aux membres de ma famille, puis à mon entourage. Et après, je leur ai dit à tous de demander à leurs amis et aux amis de leurs amis. C'est comme ça que je récolte des taskiras.
Ahmed achète aussi des taskiras pour le compte d'un autre candidat. Il est commerçant et connaît des fins de mois difficiles. Il est payé une centaine d'euros par taskira par mois en échange de cette collecte illégale.
C'est ça.
300 personnes ramassent des taskiras pour le candidat pour qui je travaille dans la province de Kaboul. J'en ai déjà ramassé 500.
Les candidats les plus riches qui pratiquent cette fraude proposent parfois jusqu'à 100 dollars par taskira. Rappelons que le salaire moyen est de 200 dollars en Afghanistan, où la crise économique, ajoutée au conflit, qui pousse chaque jour des milliers de personnes à fuir leur village, jette des milliers de familles dans la misère. Près de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Certains candidats profitent de cette situation, comme l'explique Mustapha, un commerçant dans un quartier populaire de Kaboul, qui a été contacté par une dizaine de candidats.
L'un des agents du candidat Daoudzai est venu me voir dans mon magasin. Il recherchait des endroits où il y a des pauvres pour acheter leur taskira. Il m'a dit qu'il donnerait en échange pour chacun un sac de farine, 2 de riz, 16 litres d'huile, du sucre, du thé vert et noir, plus 50 dollars.
Acheter les taskiras des pauvres ou des hommes et femmes illettrés qui n'iront pas voter est le projet de plusieurs candidats aux élections parlementaires. Pour faire valider ces votes frauduleux, les candidats doivent s'assurer de complicité au sein des bureaux de vote tenus par des agents de la commission électorale indépendante. Moujda est l'une des employées de la CEI. Elle est responsable d'une vingtaine de bureaux électoraux dans la capitale.
J'ai reçu plusieurs propositions de MP qui veulent donner jusqu'à 100 dollars pour enregistrer des fausses taskiras. J'ai refusé, je leur ai dit que je suis chef et que je ne tolérerai pas cela de mes agents. Une dizaine de personnes m'ont contacté pour me demander de frauder. Je sais qu'elles n'arriveront pas au Parlement, mais envisagent la fraude. Ce sont des agents de candidats qui m'ont contacté. On a 300 copies de taskira, et si vous mettez le sticker, on vous paiera 2000 dollars.
Chaque jour, le téléphone de cette jeune femme sonne continuellement.
Un directeur d'arrondissement des services de renseignement m'a encore appelé aujourd'hui. Il veut que mes équipes fraudent pour un candidat. Je lui ai dit que là, je n'étais pas disponible. Il veut organiser un rendez-vous avec le candidat et moi.
Si elle dit résister à la pression de ses appels réguliers, Moujda est persuadée que le scrutin sera forcément entaché de fraude.
Le candidat, une fois qu'il a acheté des taskiras, il lui suffit de donner de l'argent à un agent de la CEI pour les enregistrer dans un bureau. Et le jour de vote, les agents de la CEI mettront des bulletins dans l'urne à la place de ces personnes. Les candidats préfèrent d'ailleurs frauder dans les collines autour de Kaboul, là où il n'y a pas de policiers ni de journalistes. Comme ça, ils sont à l'écart et les agents de la commission peuvent mettre les bulletins dans l'urne pendant leur pause.
Le risque de fraude existe bien sûr, reconnaît Mazoula Daoulati, commissaire de la commission électorale indépendante.
Nous n'avons pas de mécanisme en place partout pour vérifier comment les agents de la commission électorale travaillent sur le terrain, surtout en province. En raison de l'insécurité, de nombreuses zones sont difficiles d'accès et particulièrement instables. Dans le centre de Kaboul, nous avons des équipes qui surveillent les centres électoraux. Mais il faut que les associations travaillent sur la transparence du scrutin. Que des journalistes, que des télés, que des représentants des membres du Parlement s'investissent et se portent volontaires pour être observateurs, afin d'avoir une présence dans chaque bureau de vote. Mais nous sommes parfaitement conscients que nous ne pouvons garantir la transparence du scrutin.
« Les autorités afghanes ne contrôleraient que près de la moitié de leur territoire, le reste étant disputé ou contrôlé par les différents groupes d'insurgés comme les talibans ou le groupe État islamique. Difficile dans ce contexte de garantir l'accès à tous les bureaux de vote dans le pays, encore moins la transparence.
Sonia Ghezali, formidable témoignage. Merci beaucoup. À bientôt dans Un jour dans le monde. Voici Arcade Fire sur France Inter. Future Money. On me. Pariez sur moi, put your money on me, nous dit Arcade Fire sur France Inter. 3, 2,
1, France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO, comme tous les mercredis dans Un jour dans le monde, avec Corinne Pellissier. Corinne, vous nous suggérez aujourd'hui de ressortir nos vieilles cassettes des Sex Pistols. Les punks sont de retour, c'est votre choix cinéma du jour. Ça s'appelle How to Talk to Girls at Parties. Le réalisateur s'appelle John Cameron Mitchell, il est américain. C'est une histoire d'amour sur fond de musique punk et de rencontres extraterrestres. Dit comme ça, ça paraît barré. Et ben d'ailleurs, ça l'est.
God's at the quay!
Punk, it's a way of life. It's like anarchy.
Let's get ready at the after party.
Hello.
So cool.
They must be from California.
It's gonna be alright, mate. Just speak in short, admiring sentences.
Hello.
Alors Corinne, je vais vous le demander comme ça, faut-il prendre de la drogue avant d'aller voir ce film ?
Alors ce ne sera pas nécessaire, mais c'est vrai que visuellement, c'est un film assez fort, parfois même un peu planant, la composition des plans, les couleurs, la mise en scène qui est très arty. On hésite un peu entre le ballet contemporain, une installation pour une galerie ou pour la FIAC. Voilà en fait à quoi ressemble le cinéma du réalisateur, c'est un univers très pop, un peu sulfureux. John Cameron Mitchell adore dans ses films questionner nos pratiques, nos grandes théories sur le monde. Son premier long métrage en 2001 mettait en scène une chanteuse de rock transsexuelle imaginaire, Hedwig and the Angry Inch. Un peu plus tard à Cannes, il nous livrait dans Short Bus, un film de sexe aux scènes très explicites. Bref, un cinéma comme lui, sans tabou.
Being queer was a kind of privilege to be forced to.
Le fait d'être gay m'a obligé à me poser sans cesse des questions à propos des idées reçues et des traditions. On m'a tellement reproché mes choix. Dans mes films, au moins, je suis libre de dire ce que je veux. Que ce soit à propos de l'individu ou de la communauté. Les énergies masculines ou féminines qui se mélangent pour coexister dans un seul et même corps. Tout cela a peut-être choqué certains, mais je ne suis pas comme Gaspard Noé ou Lars von Trier. Je suis un boy scout à côté d'eux. Je suis toujours très intéressé par la musique et l'art en général, d'où qu'ils viennent. Je suis un enfant des années 70, donc c'est normal que j'expérimente des formes éclectiques dans mes films.
Alors Corinne, dans ce film, on est à Londres à la fin des années 70, dans le quartier de Croydon. Ce qu'ils aiment, ces gens, c'est d'écouter de la musique, c'est draguer les filles, qu'ils prennent souvent pour des extraterrestres parce que ils ont du mal à les comprendre, c'est un peu l'histoire du monde. Hein. Sauf qu'un jour, ils vont tomber sur de vraies créatures, venues d'ailleurs, et c'est là que les choses se corsent.
Voilà, exactement. On va passer d'un coup de Trainspotting à Rencontre du troisième type. Alors au début, c'est un teen movie plutôt classique, avec un héros qui ressemble aux idoles des posters de sa chambre, Johnny Rotten et Guy pop. Il a la même coupe de cheveux, des épingles à nourrice, des badges partout sur sa veste. Et un soir, en croyant draguer une fille à la sortie d'un concert, il va tomber sur cette créature venue d'ailleurs, Elle Fanning, qui est extraordinaire dans le film, on va y revenir. Tout de suite, ils vont se plaire et expérimenter ensemble pendant 48 heures tout un tas de choses très punk, sous le regard des approbateurs, bien sûr, d'une colonie d'extraterrestres incestueux et cannibales. Ouais. Voilà, rien que ça. C'est une sorte de Roméo et Juliette qui pose la question de la différence, alors en utilisant ici le transgenre notamment. Bref, tout le contraire de l'ambiance du moment, selon le réalisateur.
Je n'ai pas essayé de recréer de manière artificielle une période punk que je n'ai même pas connue. C'est un conte à la valeur universelle. Bien sûr, c'est une histoire pop, des ados qui s'aiment, une sorte de Roméo et Juliette. Mais la période actuelle nous pousse aussi à réfléchir. Beaucoup de gens, par peur de la différence ou du changement, ferment les frontières, se replient sur eux ou cherchent à purifier la race. C'est un geste de panique qui s'apparente souvent à la xénophobie et j'utilise l'esprit punk comme une réponse. Le punk que j'aime est transgressif, mais il cherche à nous réunir, à rendre le monde plus beau, à réparer les conneries de nos parents.
The kind of punk I loved was transgressive, but it was in order to make things better, to fix what your parents fucked up.
Voilà, c'est un film audacieux, original et certainement très barré que je vous recommande, même si je trouve la fin complètement ratée. Voilà, je dois le dire.
Bah, dites-le, vous faites bien, on ne va pas dire pourquoi, mais dites-le.
Néanmoins, je vous invite à aller le voir, rien que pour Elle Fanning qui porte littéralement le film et Nicole Kidman en héroïne punk qui ressemble beaucoup à Vivienne Westwood.
Et ben voilà, comme ça on se fera une idée tout seul. Ça s'appelle How to Talk to Girls at Parties. C'est signé John Cameron Mitchell. Ça sort aujourd'hui dans les cinémas. Corinne Pellissier, merci.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
Le monde à l'envers. De Jean-Marc Four. Jean-Marc, en Europe comme aux États-Unis, ça ne nous a pas échappé. Le dossier des réfugiés est en train de monopoliser tout l'agenda politique. Énorme controverse aux États-Unis, on le sait. Négociation en Europe sur la politique migratoire avant le sommet de la semaine prochaine. On en parlait avec l'ambassadeur allemand il y a un instant. Dans votre monde à l'envers, vous vous dites, Jean-Marc, ce soir, et si le but plus ou moins avoué d'un certain nombre de gouvernants, c'était tout simplement de rendre les migrants invisibles.
Je vais vous proposer pour commencer un petit détour par les évangiles. Vous connaissez sans doute la formule de l'apôtre saint Thomas, « Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, je ne croirai pas à la crucifixion. » Autrement dit, je n'y croirai que si je le vois. Donc à l'inverse, si c'est invisible, pas de raison d'y croire. Appliquons maintenant le précepte au traitement politique des migrants. Aux États-Unis, cette polémique sur la mise en cage, littéralement, des enfants de réfugiés d'Amérique centrale, elle n'a démarré qu'avec l'initiative du sénateur Chris Van Hollen il y a une semaine. Il s'est rendu devant l'un des centres de rétention au Texas. Il a été refoulé, manu militari, mais il avait pris soin d'embarquer avec lui un caméraman qui a filmé la scène. Premier indice visuel. Et dans la foulée, eh bien, le gouvernement américain n'a pas pu empêcher que des images et des enregistrements sonores filtrent de ces camps où des milliers d'enfants, y compris des bébés, sont retenus comme des animaux en cage. On y voit et on y entend ces enfants en pleurs crier « Mamie, papa, maman, papa, où êtes-vous ?» Vous avez peut-être vu ou entendu ça. Sans ces documents, la polémique n'aurait pas enflé au point de provoquer un début de crise politique aux États-Unis que Donald Trump s'efforce désormais d'éteindre. Sébastien Paour va y revenir dans un instant dans le journal. Désormais, les manifestants américains interpellent les ministres en disant quoi ?« Do you hear the babies crying ? Est-ce que vous entendez les enfants pleurer ?» Donc ces documents, si vous voulez, sont les marques des clous. Ils rendent ces migrants visibles, donc humains. L'administration de Trump se serait épargnée une crise s'ils étaient restés invisibles.
Mais ça, c'est la méthode Trump, Jean-Marc. Ça ne vaut pas nécessairement pour tout le monde, quand même, si ?
Eh bien, si. C'est ce que démontre l'ONG Reporters sans frontières dans son rapport à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Que dit RSF ? Partout dans le monde, les gouvernements cherchent à empêcher les journalistes de travailler sur les migrants. Intimidation, saisie, poursuite judiciaire, tout y passe. En Océanie, les reporters sont interdits de séjour sur l'île de Manus qui sert de centre de détention pour les aspirants à l'immigration en Australie. En Asie, plusieurs journalistes ont été arrêtés au Bangladesh pour avoir suivi l'exode des Rohingyas. En Afrique, en Libye, c'est très dangereux d'avoir affaire aux milices qui contrôlent les centres de détention. Et en Europe, ce n'est pas mieux. En Hongrie, on le disait tout à l'heure, même les ONG sont désormais passibles de poursuites pénales si elles aident les migrants. En Italie, un journaliste de la Repubblica a été mis en examen après une enquête sur les réfugiés de Catane. Et en France, ça se dégrade depuis un an et demi. Les intimidations sont multiples envers les reporters qui couvrent l'exode à la frontière dans les Alpes. Notre confrère Raphaël Kraft, brièvement arrêté en novembre dernier pour ce motif, peut en témoigner. Donc, Inutile de faire la morale à Donald Trump. Partout, l'objectif, plus ou moins avoué, est de rendre invisibles ses candidats à l'exil.
Alors, ce que vous voulez dire, c'est que ce sera aussi le but, en fait, à la fin de la semaine prochaine, au sommet européen.
C'est possible. D'ailleurs, regardons bien ce qui s'est passé hier lors de la rencontre Emmanuel Macron-Angela Merkel. Ça ressemble bigrement à un donnant-donnant. La chancelière a cédé sur le budget de la zone euro. Le président a donné des gages sur la politique migratoire. L'Autriche, à la tête d'une dizaine de pays européens, veut proposer, on en a déjà parlé ici, des centres de tri des migrants externalisés. Joli mot abstrait, hein, externalisés pour dire le plus loin possible, en Albanie, en Égypte, en Libye, en Tunisie. Jusqu'à présent, Paris et Berlin rejetaient cette proposition, mais désormais, la diplomatie française n'écarte plus l'idée, je cite, de « plateforme d'accueil et de débarquement » en dehors du territoire de l'Union. C'est un vocabulaire plus policé, mais enfin sur le fond, la différence est quand même un peu ténue. Plus les migrants s'entasseront, voire disparaîtront loin de nos frontières, plus ils seront invisibles. Ouf, on pourra dormir tranquille. Des migrants qui meurent, qui, où, quand, jamais entendu parler, pas vu les marques des clous. Et moi, vous savez, je suis Saint-Thomas, j'attends de voir pour y croire.
Jean-Marc Fourel, Monde à l'envers, merci. À très vite, la suite du 18 vient juste après ça.